Des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde. Mère ordinaire.
En reprise.
Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose. Je l'ai partagé sur ma page. Ça s'est un peu promené. J'étais ici à Cube Radio, qui est au coin de Sainte-Catherine et Berry. Et il y a un itinérant. Oui, je peux dire comme ça. Un itinérant qui était là, qui avait la difficulté à avancer. Il était en béquille, puis il y avait un pied dans une pantoufle. Et il y avait la misère à avancer. Donc, j'étais allée chercher ma voiture. Je l'ai emmené à la maison du père. C'est là qu'il s'en allait. Et j'ai expliqué un peu. C'est sûr que c'est plus long ça, mon histoire, mais je l'ai partagé sur mon compte Facebook de Cube Radio. Et il y a beaucoup de gens, j'ai invité les gens à faire un don à la Maison du Père. Et ça a vraiment fait boule de neige, c'est-à-dire que c'est devenu viral, là, cette histoire-là. Là. Il y a presque 500 000 personnes qui l'ont lu. Et après ça, on s'est dit, mais pourquoi pas inviter François Boissy, qui est le directeur de la Maison du Père. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Hey, ça me fait plaisir. Moi, j'ai plein de questions sur la Maison du Père. Premièrement, quand c'est arrivé, ça, quand j'ai rencontré, il s'appelle Martin. De toute façon, je pense qu'on peut dire Martin, parce que des Martins, il y en a plein, là. Et ça m'a vraiment... C'est comme si, je sais pas, je connaissais pas du tout le monde itinérant. Moi, je viens de Rosemère. Rosemère, on voit peu d'itinérants, peu de gens dans la rue. Et là, plus que je travaille ici, on en voit, c'est vraiment le coin. Et vous êtes situé... La Maison du Père est située tout près, là.
Oui, à un coin de rue, tout comme vous. On est vraiment au centre de l'itinérance à Montréal.
C'est
ici que ça se passe, là, oui.
Et là, moi, je l'ai apporté là-bas, mais ça vient aussi avec tous les préjugés qu'on a. Je l'ai aidé à embarquer dans mon char. Déjà, ça, c'était difficile. Il n'y a personne qui nous a aidés. J'avais l'impression, tout le monde s'en sacrait. Vraiment ce que j'avais l'impression. Et quand il y avait la misère à marcher sur le trottoir, tout le monde s'en sacrait. Je me suis même retournée, mais j'ai fait personne l'aide. Puis là, je me suis sentie, il faut que je l'aide, tu sais, comme ça. Pas d'allure.
Ben c'est ça. Tu as eu la réaction que les gars ont, c'est de se retrouver seul. Et merci beaucoup parce que tu as eu le réflexe, première des choses, de le voir.
Ouais.
Et d'aller au-delà, puis de faire un geste de t'en occuper. Ça prend beaucoup de courage.
Oui, mais après, quand il était dans mon char,
ouais,
là, je vais pas avoir l'air de la bonne fille, là, mais je vais te dire la vérité parce que tu peux pas faire comme si j'avais fait la grosse affaire. Je l'ai embarqué dans mon char, puis là, j'ai fait, là, il était clairement, il était pas en pleine forme. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? D'un coup, qu'il pète une coche après moi, je suis seule dans mon char. Fait que j'ai dit de mettre ses mains sur le dash, puis là, de pas bouger. Et là, je me disais, après, j'ai réfléchi, puis je disais, vraiment, été comme...
Qu'est-ce que j'ai fait là?
Mais, oui, puis je me suis dit, mettons, il m'arrive quelque chose. Puis évidemment, des fois, tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement qui se présente habillé proprement, tout ça, tu sais. Fait qu'on a plein de préjugés face à ça. Là, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, peut-être m'attaquer. Puis là, je me suis dit, mais c'est moi qui l'ai fait rentrer dans mon char. Pourquoi il m'attaque? Tu sais, c'est pas lui qui a embarqué dans mon char de force. Et c'est ça. Donc, il y a quand même des préjugés avec ça, là.
Énormément de préjugés. Puis, les personnes en situation d'itinérance, ils ont toutes sortes de problématiques. Un Martin, par exemple, qui est itinérant, qui consomme quasiment un pu, mais qui a des problèmes de santé. Alors, c'est pour ça que tu le voyais aller avec ses béquilles. Et vraiment, là, il était en difficulté. Quand tu remontes, il y a une semaine, le marché dans les rues de Montréal,
c'est l'enfer.
C'est l'enfer, même pour moi ou n'importe qui.
En béquille, avec béquilles. Une...
Fait que c'est comme incroyable.
Alors... Mais il me dit, je vais y aller à genoux au pire. Mais voir que je vais laisser quelqu'un aller à genoux à quelque part, tu sais.
Fait que c'est ça. Martin sort d'une opération, des problèmes à une jambe. Donc, va passer à peu près 4 à 5 semaines chez nous en soins de convalescence. Sens parce que en dehors du refuge, parce que les gens, quand on pense Maison du Père, on pense du refuge.
Mais moi, je pensais qu'il allait juste là pour manger. Quand il me dit, je m'en vais à Maison du Père, moi, je me suis dit, il s'en va chercher un lunch. Moi, je l'ai emmené, mais je ne savais pas. Là, et là, à l'entrée, le gars me dit, oui, tu as la chambre ici à Martin. Puis je me dis, il y a une chambre ici.
Oui, c'est exactement parce qu'il y a une unité réservée de 12 chambres pour tout ce qui est soins de santé chez nous. Alors, c'est l'infirmière.
Comme par exemple.
Écoute, 45% des cas qu'on a à l'unité de santé nous viennent du réseau de la santé, donc des hôpitaux qui nous réfèrent des gens. Nos services sont adaptés auprès des hommes. On a des infirmières à temps plein, des préposés aux bénéficiaires. Alors, tout du bon monde qui adapte nos services pour s'assurer que les gars prennent leurs médicaments, sortent en meilleure santé.
Bien, il y a aussi, si par exemple, un étudiant qui a subi une opération...
Ouais.
peut pas retourner dans la rue après?
Ben non, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas... Moi, je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps et tu as du soin à domicile qui vient avec des infirmières.
Mais domicile, ça prend un domicile?
Ben, ça prend un domicile, voilà, c'est là la base. Ils n'en ont pas de domicile. Alors, c'est là qu'on a ouvert, qu'on a eu une idée de sorte de partir ça parce qu'il y avait de plus en plus de cas en 2012. Fait qu'on a ouvert ça en 2013 et ça rapporte. Écoutez, les gens passent en moyenne 25 jours... par séjour, mais au bout de la ligne, ils sortent en meilleure santé. Ça a une double fonction parce qu'en même temps, on attache un intervenant. Ce qui fait quoi? C'est qu'on crée des liens. On arrive à organiser des départs organisés qu'on appelle au-dessus de 60%. Ça veut dire que les gars partent, ils ont un toit ou un programme à quelque part.
C'est le bon moment de créer un lien. Il est là, de toute façon. Fait qu'il ne peut pas vraiment se sauver. Mais là, c'est le temps de faire quelque chose avec lui, de travailler. Et en dehors de ce côté-là, là, de convalescence, si on peut dire, c'est la maison du père, c'est quoi? Tu sais, c'est écrit dans le dépliant 530 solutions d'hébergement. C'est des chambres privées. C'est quoi, par exemple, ça, des chambres privées?
Des chambres privées, c'est à peu près, dépendamment du programme, si on prend en réinsertion sociale, ou les résidences pour les aînés. Hein, on travaille beaucoup avec les aînés. C'est à peu près 88 chambres. Ils sont là. C'est quasiment du permanent.
C'est, par exemple, quelqu'un qui sera en situation d'itinérance, qui a n'importe quoi, 75 ans.
C'est ça, on les prend à partir de 55 ans à la résidence. La résidence est complète avec deux listes d'attente depuis 2002. Donc, c'est toujours, toujours complet. Et ça, pour la plupart d'entre eux, ça devient leur dernière résidence. C'est une résidence certifiée par le ministère, donc qui répond à tous les axes de service avec des activités, du bénévolat, au niveau de la nourriture.
C'est comme un CHSLD, si je ne me trompe pas.
Je ne dirais pas un CHSLD parce que le CHSLD, on va nous autres travailler avec les CHSLD quand les hommes sont de moins en moins autonomes. Puis à ce moment-là, on n'est plus capable de s'en occuper. C'est rendu des cas trop lourds.
OK. Ils sont autonomes dans votre résidence.
Exactement. Est-ce que je peux un club Maurice pour les itinérants.
OK, je comprends.
Je comprends, fait qu'il y a vraiment tout.
Et il y a aussi de la réinsertion sociale. Ça veut dire que le but, c'est quoi la mission première de la Maison du Père?
C'est voir au bien de la personne, de bien les accueillir, sans préjugés, sans jugement, avec un sourire. La Maison du Père, c'est une maison... Il y a un sentiment de familial, si on peut dire, en tant que tel. Donc, on accompagne les hommes. Ce qu'on veut, c'est les sortir de la rue.
Donc, il y a un volet réinsertion sociale.
Il y a un très gros volet réinsertion sociale. On est rendu qu'on sert, ou du moins, on s'occupe de plus de 200 hommes à l'extérieur de nos murs. Donc, on maintient en logement. Donc, le succès, c'est d'avoir un intervenant attitré qui va les suivre et qui va les accompagner. Et vraiment, on parle de réinsertion occupationnelle pour la plupart des cas. Donc, c'est de les tenir occupés, d'attacher tout le réseau communautaire, réseau de santé, des banques alimentaires, toutes sortes d'activités qu'ils peuvent faire, où ils peuvent faire du bénévolat.
Donc, c'est pas juste les nourrir, mais prendre un repas à la Maison du Père, puis peut-être leur offrir un toit quand il fait froid. On n'est pas là.
Il y a ça. Puis notre refuge devient, je te dirais, la proportion que ça occupe dans ce qu'on fait comme travail diminue d'année en année. Alors, on fait beaucoup plus de choses que juste un refuge. Le refuge qu'on veut, là, c'est de créer des liens, puis de trouver de l'hébergement le plus rapidement possible.
Donc, par exemple, un appartement, c'est
exactement.
Ça qui est...
C'est dans le privé ou des logements sociaux, mais il n'y en a quasiment plus de logements sociaux. On travaille sur des projets de développement présentement. Mais de trouver un appartement, dans le fond, le succès, on l'a prouvé dans un projet de la Maison du Père. Il y a à peu près 56 personnes qu'on a placées dans un projet commun avec mes partenaires, où on a logé 250 personnes en logement privé dans 2 ans. Et ces gens-là ont un taux de maintien en logement de 93%. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on prend les gens...
Ça marche. Ça veut dire que c'est pas un choix. Là, de dire, je vais rester dans la rue toute ma vie, puis
pas du tout. Fait qu'on les sort, puis on les met en appartement, puis là, on attache vraiment tout le volet. Là. C'est une approche globale à l'entour de la personne, et on n'est pas tout seul. On attache vraiment, là, comme je disais tout à l'heure, là, donc le réseau de santé, puis tout ça avec eux autres.
Parce que dans le dépliant, il y a des préjugés qu'on a. Là. Tu sais, ils veulent pas s'en sortir, ils veulent rester dans la rue. Là. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui veut être dans la misère? Ça fait son affaire.
Ben,
hein?
Je pense que non, pas vraiment.
Hein? Si on a le choix, puis on a un réseau autour qui nous aide, c'est là qu'on veut s'en sortir,
puis,
finalement.
La réinsertion sociale va donner un coup de main. Donc, que ce soit des problèmes d'employabilité, de judiciarisation, de retour à l'école, ça existe tout. Fait que, oui, on s'en occupe, on a des partenaires.
Mais c'est d'attacher tout ça autour.
Exactement.
De
ça commence
personne.
Par créer le lien. Fait que le lien commence quand le gars arrive au refuge, puis qu'il lève la main, puis qu'on arrive à l'identifier. Puis à ce moment-là, on attache un intervenant, puis là, il y a tout un processus qui se met en branle.
Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à sortir de la rue.
Exactement. Puis le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle la rencontre des nouveaux. Fait que quand on a un nouveau visage qui nous arrive, tout de suite, il y a une rencontre à l'intérieur des 24 heures, puis on va essayer de le sortir le plus rapidement possible.
Et est-ce que ce sont des jeunes qui sont dans la rue? Je ne vais pas dire vos clients, mais vos usagers. Est-ce que c'est quoi l'âge en général?
Tous nos services, il y a une moyenne d'âge au-dessus de 50 ans.
Mais qu'est-ce que ça t'a pas passé ta vie dans rue? Là, quand
ben, on en a des nouveaux qui nous arrivent à plus de 60 ans maintenant. C'est vraiment...
On arrive dans rue à 60 ans.
Oui, il y en a qui arrivent. Écoute, je sais pas.
Il y a plein de différents facteurs. Les faillites, le système de retraite qui n'est pas suffisant.
Exactement. Deux, trois bad luck. Ça peut être une personne qui a plus de 65 ans, par exemple, puis qui va perdre son appartement, être en coloc, sa conjointe décède. Bref, il est sur le bord du seuil de la pauvreté. Il va se retrouver dans la rue. Qui se retrouve à la maison du père. Fait que là, on va le rentrer dans nos systèmes. C'est pour ça qu'on a créé notre aile des 50-55, parce qu'on s'est rendu compte que plus de 70% des nuités occupées au refuge, là, on parle de 63 000 nuités dans une année, c'est occupé par des gens de 50 ans et plus.
C'est terrible.
C'est terrible. Tu remontes, c'était à 22 % il y a 20 ans, puis là, on est rendu au-dessus de 70 %. Alors, oui, donc, quand on regarde à long...
Parce que quand on a cet âge-là, on a les problèmes de santé qui viennent avec, on n'a plus la forme comme quand... Puis il paraît qu'on vieillit plus vite aussi dans la rue.
Mais voilà, ça, l'itinérance, c'est comme la démographie au Québec. Donc, oui, la population vieillit. C'est pour ça qu'on a créé cette aile de santé-là qui est importante. Alors... ça fait un travail extraordinaire. On travaille beaucoup sur la santé physique des hommes à Maison du Père, les plus âgés, donc parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, c'est vraiment important. Puis surtout, notre aile santé, c'est notre seul service qui n'est pas subventionné. Alors, c'est vraiment que des dons
Pour la résidence?
Pour le centre de soins de santé.
Les soins
de santé sont pas subventionnés.
Mais ils sont couverts par la RAMQ.
Oui, puis on a des suivis du CLSC, mais les
employés... Mais tout autour, l'infirmière qui est là, tout ça.
Ça, c'est toute la maison qui absorbe tout ça.
Qui donne des dons à la Maison du Père?
Un peu tout le monde. On a à peu près 35 % qui vient en subvention.
Mais c'est pas beaucoup, juste 35 %. Il reste 35 % à aller chercher.
Sur un budget de 6,8 millions, oui, c'est beaucoup.
Donc, tout ça, c'est fait avec 6,8 millions.
Oui.
Et c'est pas tant que ça, hein?
C'est pas tant que ça.
Parce que les gens vont faire, oui, 6 millions, c'est beaucoup, mais c'est rien, ça passe vite.
Exactement. Alors, on va quand même chercher des bonnes contributions à l'année. Ce qu'on veut, c'est maintenir nos services et adapter nos services aux besoins de la clientèle. Alors, on y arrive difficilement, mais on y arrive.
Et j'ai vu quelque chose dans le dépliant, des soins palliatifs pour itinérants. Ouais. Quand on est dans la rue, on meurt où?
Ce qu'on veut, c'est
Quand il arrive fin de notre vie, là, oui. On est où? On est tout seul, premièrement?
Premièrement, on est tout seul, on n'a pas de lien. C'est pour ça qu'on a créé ce service-là, parce qu'on a nos soins de santé, parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, on les occupe, on s'en occupe, même encore plus loin que ça, avec nos Trinitaires, qui sont nos partenaires extraordinaires, la Maison du Père. Chaque itinérant qu'on connaît, on va vraiment s'occuper du volet décès, du volet liturgie de la parole. Donc, on va faire vraiment une belle cérémonie pour n'importe quel être humain qui décède. Ce qu'on veut, c'est que personne meure sans être sous un toit. Donc, beaucoup de nos partenaires, je souhaite encore plus qu'il y ait plus de nos partenaires qui vont nous référer des hommes qui ont un diagnostic de fin de vie pour qu'ils puissent être pris en main chez nous. On est accompagné par la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal qui nous donne un coup de main parce qu'on n'est pas des experts là-dedans, mais on a les équipes en place et on est capable, avec nos bénévoles, nos employés, de faire un travail extraordinaire.
Parce que déjà, partout au Québec, il y a des gens qui meurent tout seuls. Donc, exactement. Si on est dans la rue,
on est encore plus seul.
On est en plus. Ah, et qu'est-ce qui offre la Maison du Père? Donc, on peut aller, on reçoit les soins de fin de vie chez vous.
Chez nous, nos employés qui vont nous accompagner là-dedans, bien sûr, avec le réseau de la santé. Alors, on fait un travail vraiment... mes employés font un travail remarquable de ce côté-là. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que pour la plupart des hommes qui passent par nos soins palliatifs, on arrive à créer un lien, retrouver un ami ou encore un membre de la famille rendu dans une fin de vie. Alors pour moi, c'est extraordinaire.
Pour vraiment pas mourir tout seul.
Exactement.
Finalement. Et ce que je me demande, c'est que c'est pas tous des employés. Il y a un gros volet bénévole. Moi, quand j'ai fait le statut Facebook concernant Martin, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, je suis allé faire du bénévolat. Ouais. Donc, c'est quand même les stages. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont pas rémunérés. Ça vient chercher les gens quand même.
Mais la Maison du Père, c'est 110 employés.
C'est énorme.
C'est énorme. Là. On a beaucoup de nos employés, plus de 70, à peu près 74 %, c'est des gens de première ligne, donc des intervenants qui vont s'occuper de nos hommes. On prend beaucoup de stagiaires qui, après ça, deviennent des employés, bien entendu. Mais bénévoles, tu l'as nommé, sans eux, on n'y arriverait pas. C'est 200 bénévoles réguliers qui donnent en moyenne 3 heures par semaine. Donc, tu as une équipe du lundi soir, par exemple, qui vont servir le repas, mais ils viennent à tous les lundis, à toutes les semaines. Et aussi, on peut ajouter à ça 400 bénévoles ponctuels qui viennent une fois de temps en temps.
pour venir faire différentes tâches.
Différentes tâches, un groupe corporatif qui va venir servir un repas ou des choses comme ça.
Et ça se peut. Si on est une entreprise, on peut dire, nous, on va venir donner du temps à la Maison du Père.
Absolument. Juste à passer sur notre site Internet, toutes les informations au niveau du bénévolat sont là. Alors, n'importe quelle personne qui veut venir faire du bénévolat, il nous en manque. Alors, il y a toutes les informations nécessaires.
Et si on veut donner, comment ça... Qu'est-ce qu'on peut donner? Les gens, ils donnent de l'argent de quelle façon? Ils font des chèques, ils donnent des gros montants, des petits montants.
On prend tout, puis on est même rendu que les legs testamentaires font partie d'une réalité où on a quand même des legs testamentaires, mais les dons individuels, alors tout l'argent va vraiment aux opérations pour les maintiens des services.
Par exemple, si je veux, il y a l'option texter que moi j'ai trouvé vraiment cool, qui est une bonne façon de donner sans aller passer par Internet et tout ça. C'est quoi? On prend notre téléphone puis on fait un texto au 4567. C'est ça?
Maison.
Maison.
Maison. Alors, puis là, c'est un 10 $ qui vient automatiquement à la maison.
Moi, je vais le partager sur mon Instagram et sur ma page, les différents liens, mais aussi pour le bénévolat, parce que c'est quand même une bonne façon de s'impliquer, si on veut.
Jusqu'à 12. Jusqu'à 12.
Mère ordinaire.
En reprise.
Avec Joannie. Joannie qui est professeure de yoga. Oui. Et Joannie, tu as des enfants aussi, t'es maman.
Oui, je suis maman d'un petit garçon.
Un petit garçon.
Oui.
On te regarde bien, on va poser la même question. Et je suis aussi avec Jimmy qui est entraîneur. Jimmy, t'es aussi papa?
Mais oui, moi je suis papa de 3 enfants. Non, c'est pas vrai. Okay.
Là, je vais lâcher mon crayon. Mais non, mais ça aurait pu avant. Dans
non,
ton
non.
Autre vie,
okay. Écoute, on a un enfant ensemble, un petit gars qui va bientôt avoir 2 ans. Là.
Et là, vous autres, là, vous êtes le couple parfait. Là. Je vais vous rentrer ici, les petits bisous avant, le petit five. Coudonc, ça fait longtemps que vous êtes ensemble?
Ça va faire 4 ans bientôt, puis c'est quand même assez drôle que, tu sais, aujourd'hui, on parle d'entraînement parce que Joannie, à la base, je l'ai engagée pour un de mes concepts au Mexique, c'est-à-dire un bootcamp, puis j'ai jamais été capable de la renvoyer, tu comprends? Okay. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà.
Attends une minute, comment ça marche? Toi, t'étais entraîneur, qu'est-ce que tu fais au Mexique?
Ben moi, dans le fond, j'organise à toutes les années, je fais un bootcamp au Mexique, fait que puis une année, ben, ça avait comme pris trop d'ampleur.
Ben 6 mois ou un bootcamp, quoi, c'est une semaine?
C'est ça.
Une semaine, on s'entraîne avec Jimmy, on fait du yoga avec Joannie.
Une semaine? Ouais. Non, mais au départ, ça existe encore, là, ce concept-là.
Oui, ça existe encore, puis moi, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, parce que tu t'entraînes le jour, puis le soir, je veux dire, tu peux prendre une petite coupe de vin, un petit pina colada.
Non, le soir, un pina colada, le lendemain, je suis scrap, on va aller faire un bootcamp, certain. Et qui va là? C'est des jeunes? C'est comment ça marche?
Écoute, non, moyenne d'âge, je te dirais 35 à 45 même. Écoute,
mais il n'y a pas de limite, là.
Non. Puis on en a, c'est quoi? On a déjà eu de la des vingtaines, là, jeunes vingtaines qui sont nés.
Là, je comprends bien. Là, maintenant, c'est du bootcamp avec du yoga, c'est ça?
Ben, on fait les deux. Il y a toutes sortes de choses dans le fond. Au bootcamp, on explore toutes sortes de méthodes d'entraînement, du kickboxing, du spinning, de l'entraînement de groupe. Puis on va faire aussi du yoga sur la plage, du yoga à l'extérieur. Donc, il y a vraiment de tout. C'est pour sa santé physique, mentale. Puis il y en a qui viennent
On devait parler de yoga après yoga, mais là, t'as mis j'aime ça, cette affaire-là. Ça veut dire que... Non, mais il y en a souvent, il y a des voyages, rire pour la cause, des trucs comme ça, ça part. Puis là, il y a des shows d'humour. Il y en a que c'est des shows de conférences de t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Et il y a aussi faire de l'activité physique pendant 7 jours, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Le monde achète leur voyage, puis ils s'en vont avec vous autres.
Absolument. Écoute, tu sais, puis les gens ont vraiment la possibilité de pouvoir s'entraîner jusqu'à 3 heures par jour, tu sais. Puis là, je sais, je vois ta face.
Non, moi,
ça n'a aucun bon sens.
Je blâme.
On est de même.
Mais non, mais j'imagine. Tu sais, c'est du monde qui tripe ça. Tu sais, une fille comme moi, ça va pas dans un voyage.
Absolument, tuer la clientèle typique.
Parce
qu'on a toujours 3 niveaux en simultané. Puis moi, pour pas que tu oublies une affaire, c'est que tu sais, à la base, moi, je pesais 500 livres avant. Ça fait que c'est clair que.
Aussi,
tu une personne.
500 livres.
Ben, je porte une gaine à ce temps. Ça fait que ça.
C'est en dessous.
OK. Oui, c'est ça. Je disais, il y a trop d'affaires en même temps. Fait que là, au départ, t'es pas sportif depuis que t'as 10 ans.
Non, du tout. Écoute, moi, dans le fond, j'ai été obèse morbide jusqu'à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai frôlé le poids de 500 livres. J'ai eu un malaise cardiaque. Puis c'est là que j'ai décidé de prendre ma vie en main. Tu sais, ça fait que.
Mais attends, tu l'as pris, c'est un méchant temps, hein, ta vie en main.
J'avais pas le choix.
OK.
C'était ça où je mourrais.
OK.
C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça. On est vraiment plus dans un cadre de dire aux gens, on est aucunement dans la performance. On dit aux gens, si vous voulez venir au bootcamp performer parfait, on va vous assigner un entraîneur. Mais tu sais, le matin, exemple, tu peux faire soit de la marche, de l'alternance marche-jogging ou du jogging. Ça fait que tu pars avec l'entraîneur que tu veux. Puis il y a aucune notion de compétition dans ce qu'on fait. Parce qu'on trouve ça par rapport là-dedans.
C'est vraiment pour le fun. Puis on va mettre, c'est trop bien. Puis où est-ce qu'on peut trouver ça? Si, mettons, moi, je disais, hey, ça me tente d'y aller. D'aller faire marcher le matin.
Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu peux voir sur le site de Jimmy.
Ça part, est-ce qu'il y a un départ cet hiver?
On part en avril, là. On part en avril, ouais. 80 personnes.
C'est complet.
Personnes.
On est complet, déjà? Ouais. Sinon,
non,
ça va aller.
C'est juste pour donner le goût.
Mais j'ai des retraites de yoga aussi.
OK, oui, OK. Donc là, toi, t'es vraiment un entraîneur.
Ouais.
Et là, est-ce que tu fais du yoga avec Joanie, avec ta blonde?
Oui, écoute, on a un studio ensemble aussi. On opère un studio de yoga dans notre coin à Vaudreuil-Dorion. Ça okay. fait que moi, je suis moins yoga. Je suis beaucoup plus dans l'action. Tu sais, je suis du genre, le matin, je vais aller courir. Puis si ça va vraiment m'aider, je vais faire du bootcamp. Joanie, on parle souvent du yin puis du yang. Là, moi, je suis plus yang. Joanie est plus yin. Ça fait que.
Et toi, Joanie, tu fais du yoga, mais il y a aussi un côté différent. C'est que c'est vraiment maman, les mamans à venir, si on peut dire, les mamans à en devenir, c'est ouais, ça, les c'est filles ça. Qui sont enceintes. Comment ça fonctionne,
ben,
ça?
En fait, c'est
parce
ça.
Qu'on s'entend, quand on est enceinte, on voit plein de monde, c'est comme si c'était une maladie, ils sont en train de mourir sur le sofa. Moi, j'ai pas été enceinte, j'ai adopté 3 enfants, mais j'ai des gens autour de moi qui sont enceintes, qui m'ont dit, ça a l'air tough, puis je me dis, ben, peut-être que moi aussi, je serais comme ça. De toute façon, je suis pas enceinte, puis je fais même pas de yoga, donc j'imagine. Mais là, toi, ça donne le goût de dire, on va bouger, même si on est enceinte, c'est vrai qu'on peut se lever, puis on peut faire des trucs.
Tellement,
on peut être
actif. C'est ça. Moi, là, je veux vraiment montrer à la maman d'aujourd'hui, la maman qui moderne, que la maternité, c'est possible, puis c'est possible de le faire de façon calme. Moi, j'ai vécu ma grossesse d'une façon extraordinaire. J'ai adoré être enceinte. C'est sûr que je fais du yoga depuis 10 ans, puis mon petit gars va avoir 2 ans. Fait que, tu sais, j'avais déjà intégré le yoga dans mon corps, mais honnêtement, de l'avoir vécu pendant ma grossesse, ça a été comme un cadeau, parce que la pratique change, le corps change, puis moi, je dis toujours, le yoga, c'est une activité ou une philosophie qui va vraiment nous supporter dans des phases de transition de notre vie. Puis la grossesse, c'est ça. C'est
une méchante grosse
phase de transition. Oui. Puis, tu sais, moi, je m'associe beaucoup à une maman comme tous les autres mamans. Puis j'avais envie, justement, en créant puis en parlant de yoga prénatal, postnatal, d'offrir cet outil-là aux mamans de notre génération.
Mais postnatal, ça veut dire qu'on fait du yoga avec notre enfant, on le met où?
Ouais, ben, en fait, c'est ça, j'ai...
Non, mais au début, c'est top, postnatal, ouais. Je veux dire.
C'est ça, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai lancé justement un programme de yoga pré- et postnatal. Le postnatal, il y a 2 séquences.
OK.
Avec le bébé qu'on va faire. Puis on prend le bébé, on l'intègre dans nos exercices de respiration. Donc là, je t'en passe une copie ici. On l'intègre dans nos exercices physiques. Donc, on met vraiment le bébé en mouvement avec nous. Puis on fait la même chose, en fait, quand il est dans notre ventre, là. Fait que c'est vraiment un programme qui donc, vise vraiment... à connecter avec le bébé.
Il y a vraiment... Je le vois sur la pochette, en fait, yoga pré-postnatal. On te voit, toi, qui es enceinte, et on te voit après avec un bébé. Ça a l'air de vraiment bien aller avec le bébé. Pas sûr, c'est toutes les mères qui ont cette face-là.
Non, mais il faut se dire, ça a pris 44 takes avant d'être capable d'avoir une photo correcte.
On n'entend pas avec les deux. Mais envoyez, prenez-la en photo.
Après, quand on a enregistré ça, là, l'équipe était abasourdie de voir comment le bébé répondait bien. Puis on a tourné en... une fois, puis c'est parce que ça fonctionne vraiment, de respirer, d'être en connexion dans le moment avec le bébé, il ressent, puis écoute, on bouge le corps, le but, c'est de reconnecter aussi, tu sais, le postnatal.
On est toujours en train de faire de quoi, tu sais, c'est rare c'est que t'es vraiment, je te dis, t'as le bébé dans les bras, moi j'ai eu un bébé naissant, même si j'ai pas accouché, j'ai adopté un bébé naissant, t'as le bébé dans les bras, puis tu regardes tout ce qu'il y a à faire, tu fais, oh merde, la vaisselle, oh ça, tu lui donnes le bras, tu peux même être en train de faire d'autres choses en même temps que tu le nourris, c'est terrible, ça a pas d'allure.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment une autre façon.
C'est ça. Puis tu sais, c'est des séquences où est-ce que c'est pas trop long, c'est tu peux le faire en plusieurs segments, tu es pas obligé de faire mettons le 45 minutes au complet. Il y a une séquence avec bébé, il y a une séquence avec seulement la maman, tu sais bébé il fait son dodo, il fait un dodo de 20 minutes à 1 heure. Ben prendre le temps, il y a une séquence juste pour maman à l'intérieur, puis qui va vraiment aider à la reconstruction du plancher pelvien. J'ai ajouté un programme de rééducation pour le plancher pelvien et pour le transverse.
Ça on s'entend là, ça c'est la vessie qui descend.
Ouais, exactement.
C'est ça,
puis, faut en parler, je pense qu'il faut. C'est vraiment
parce
un sujet.
On n'en parle pas. On fait le plancher pelvien. C'est un petit beau mot pour dire à chaque fois que tu vas rire, tu vas pisser dans tes culottes.
Exactement.
C'est ça.
Puis, c'est vraiment un truc qui est, on va dire, les gens disent ben, j'ai accouché 3 fois, donc c'est normal que.
Mais non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
En fait, c'est normal, mais il y a une possibilité que ça le soit.
D'améliorer ça. Définitivement, ouais. Puis, dans le fond, mon but, moi, c'est de promouvoir ça. Donc, il y a vraiment une séquence à l'intérieur pour ça. Puis, de formation aussi, je suis ergothérapeute. Fait qu'avant de faire une transition vers le yoga, j'ai été ergothérapeute en pédiatrie. Alors, j'ai ajouté une séquence de développement pour le bébé dans le programme. Donc, c'est vraiment complet pour la maman et pour le
donc,
bébé.
Donc, ça, mais nous, moi, ça m'intéresse vraiment le truc du plancher pelvien parce que, tu sais, on a eu plein de petits trucs ici. Là, on nous dit, à chaque fois que tu passes en dessous d'une porte, tu vas faire tel. C'est vraiment une préoccupation. Là. Moi, j'en entends dans mes shows, les filles m'en parlent. Puis durant mes shows, ils rient beaucoup. Puis ils me disent, oh mon Dieu, je vais te dans mes culottes, qu'est-ce que je peux faire pour. Et moi, tu sais, j'ai pas vécu ça. Et là-dedans, on l'a.
Oui, il y a un programme d'une durée de 30 minutes. C'est sûr qu'il est séparé en différents segment. Donc, les premières 10 minutes, c'est un programme qu'on peut faire dès les premières semaines après l'accouchement. Okay. Donc, tu sais, vraiment, les études le démontrent. On peut commencer à réadapter vraiment le plancher pelvien, c'est-à-dire cette sensation de retenir le
oui,
pipi.
De retenir,
là.
Oui.
Bon, mais carrément, cet exercice-là, je donne différentes façons de le travailler. Puis après ça, la deuxième partie, on va parler plus 6 semaines après l'accouchement à 12 semaines, dépendamment là, si la maman a une césarienne ou quoi que ce soit, la façon aussi dont elle se ressent, mais il va y avoir quelque chose plus au niveau abdominal, donc tout l'abdomen, le transverse, rééduquer aussi pour travailler, que ça supporte encore les organes okay. le mieux possible. Là, ouais.
Mais ça, c'est vraiment cool parce qu'entre autres, c'est chez vous.
Ouais.
Quand on a un bébé, sortir de chez vous, c'est de la job en tabarouette. Mm-hmm. Même aller faire un cours de yoga avec le bébé,
ouais.
c'est quelque chose de tough. Tu sais, là, on est l'hiver, là, sortir habillé. Puis peut-être que tu as un 2 ans chez vous aussi mm-hmm. parce que tu as voulu économiser sur le CPE. Donc c'est peut-être ça. Que tu as aussi un 2 ans chez vous. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne. Moi, je trippe sur tout ce qu'on peut faire chez nous, acheter oui. en ligne, se mettre en forme à la maison. Et ça, on peut l'avoir dès qu'on est enceinte. Et ensuite de ça, on peut continuer. Donc,
oui. Puis il y a même des mamans qui m'écrivent, je viens d'accoucher. Honnêtement, pour le contenu que ça a, si vous pensez vous voulez agrandir votre famille, là, même si c'est après l'accouchement, pour le contenu qu'il y a au niveau postnatal,
c'est vraiment cool. Et après ça, watch out, un coup que l'enfant... un coup qu'on est revenu en forme, il y a Jimmy qui arrive avec on va te faire suer cette... c'est intensité 5-25, c'est ça?
Oui, c'est ça, dans le fond, intensité...
Qu'est-ce que ça veut dire, 5-25?
C'est 5 workouts de 25 minutes quand même... C'est intéressant comme concept.
Avec, OK, non, mais c'est 5... pas tout d'un coup.
Non, non, non.
C'est
ben
pas
non,
dans la journée, tu fais 5
non, non,
pour 25 minutes.
Je te confirme que tu vas être raqué le lendemain. Regarde, présentement, tu es en train de l'ouvrir. On offre 3 calendriers d'entraînement mensuels. Ça fait que si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, on te propose même de faire tel ou tel type d'entraînement sur un mois. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme je te disais tantôt, on parlait du concept de débutant, intermédiaire, avancé.
Ouais.
Puis c'est la même chose qui revient dans le DVD. Hein. J'ai été le premier à mettre des femmes en rondeur ou des femmes en surpoids. Pourquoi? Parce que je voulais démontrer que c'est tout le monde à la maison qui peut faire ces entraînements-là. Donc, dans chacun des workouts qu'on propose, des entraînements, désolé, on a vraiment une personne qui va le démontrer débutant, un autre avancé, puis un autre intermédiaire. Parce que je me suis dit, moi, ça fait quand même 5 ans que je design des DVD d'entraînement. C'est pas vrai que la personne qui fait ça dans son salon à la maison,
ben non, c'est pas ça.
Que c'est toujours une Suédoise de 18
non,
ans aux
non,
yeux bleus
ben non,
avec un six-pack.
C'est
ça
terrible.
Fait que,
c'est vraiment. Ça. Et là, si on voit sur la pochette, dans le fond, là, c'est pas toutes des filles minces en qui tout. Pèsent 100 livres ou des filles super musclées.
Non,
on en a
2-3, mais eux, ils font des exercices avancés, tandis que les autres personnes, ben c'est du monsieur, madame, tout le monde. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que la plupart des gens qu'on va prendre pour nos DVD, c'est pas des entraîneurs à la base, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus de job, mais pendant 8 mois, on va les former pour arriver au moment fatidique qu'ils vont, ils vont faire du tournage. Puis écoute, on fait des méga workouts. On était à Vaudreuil la semaine passée.
Tu fais des workouts de fou, là.
Ben oui, écoute, il y a 1300 personnes. C'est les plus. Je dis toujours à la blague que c'est comme un rave, mais au lieu d'être gelé, tu t'entraînes.
Ouais.
Tu comprends? Ça fait que c'est le fun parce que.
Mais ils sont où? Où tu sais, t'es installé, 1300
dans
personnes?
Dans des stades.
Dans des stades?
Ouais,
t'étais
ouais.
où pour les 1300 personnes?
J'étais dans le centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Puis là, ben, c'est sûr que, dans le fond, là, on travaille sur 2022-2023. On regarde vraiment pour le stade olympique. On veut créer le plus gros workout jamais présenté dans l'histoire de l'humanité. On veut faire bouger 15 000 personnes en même temps pour ce type de... Puis on va y arriver.
Pourquoi les gens aiment ça de même, aller s'entraîner en gang? C'est l'effet de gang?
C'est
on n'est pas tout seul?
L'énergie?
C'est l'énergie, c'est le show. Écoute, les gens, oui, ils viennent parce qu'ils me suivent puis ils aiment ce qu'on fait. Ça c'est bien correct.
Ouais.
Ils viennent pour les effets spéciaux, pour la musique, pour le show de mi-temps.
C'est comme vraiment un bon... C'est comme tout un bon moment. Il y a le sport, mais il y a aussi tout le côté divertissement, c'est ça?
Oui, puis ce qui est le fun, c'est que t'as autant la femme, admettons, de 58 ans, out of shape, elle va se placer à gauche de la salle, elle veut faire les exercices débutants, que tu vas avoir la fille de 21 ans
qui est en feu, elle
va se placer à droite, puis les gens intermédiaires sont dans le milieu. Ça fait que tout le monde est ensemble, toutes les générations se rencontrent, c'est une des affaires les plus inclusives que j'ai vues dans toute ma vie, puis ça fait que tout le monde est intéressé par ça. Ça fait que
mais c'est quand même nouveau, là, l'effet de groupe de même, de sortir en gang, puis d'aller s'entraîner.
Absolument.
Moi, je connaissais pas ça quand j'étais jeune, il y avait pas ça, il me semble.
Il faudrait que tu viennes au prochain,
ben oui.
C'est le fun. Hein?
Ben oui, il va avoir y a-tu les maîtres dehors, c'est quoi?
On pourrait te donner un chandail de bénévole pour encourager le méga workout, ça serait le fun.
Non, mais je peux être dans débutant, c'est bon. Et il y a aussi un retour de ça, des DVD à faire chez soi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, tu sais, il y a eu la mode, on va dans les gyms, on va s'entraîner. Mais moi, je trouve ça vraiment trippant, le DVD, que ça revienne. Tu sais, que là, regarde, j'ouvre la pochette, puis on voit la planification intermédiaire, planification avancée, débutant. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans.
C'est simple, puis ton entraînement de 25 minutes, tu t'en prends pas 2 heures parce que, tu sais, ça te prend pas 46 minutes à aller au gym. 45 minutes à revenir.
Parce que je vais vous dire, tu sais, quand on va au gym, moi, je suis allée au gym, puis il fallait. Moi, je prenais ma douche avant. C'est pas vrai que je vais aller. Je vais aller avoir l'air du yob devant plein de monde. Non, non, hein? Moi, je voulais avoir. Non. Moi, je m'arrangeais.
Allure avant.
C'est-à-dire, moi, je m'arrangeais. Ouais. J'avais un beau kit. Puis là, on dirait. Non, mais c'est vrai, avant d'avoir des enfants, j'allais au gym, puis je m'arrangeais avant d'y aller.
Avant,
parce que,
pendant, puis après.
Ben oui, c'est ça, exactement. Okay, wow. Puis non, mais moi, ça me tente pas d'aller dans le monde, tu sais, comme ben ouais. tout décrissé, là. Tu sais, ça me tente pas. Fait que je m'arrange. Et c'était de l'ouvrage. Au final, ça prend 3 heures à aller au gym. Ouais. Et là, quand j'ai découvert les. Comment ça s'appelait? Insanity. Ouais. Dans le temps, c'est quand même un bon bout. Et là, je faisais ça chez nous. Et ça, c'était trippant. Tu mets le DVD. Ah ouais, let's go. Et c'est un peu ça que je retrouve avec Intensité 525. Mm-hmm. Tu mets ton DVD, c'est super simple et tu suis ton carton. Là. C'est pas avoir plus simple que ça.
C'est ça.
Maintenant, tu vas avoir Jimmy. Tu vas pouvoir t'entraîner dans ton
avec
salon.
Avec Jimmy, mais ouais, exactement.
Bon, 25 minutes, honnêtement, là, vous en avez.
Hey, c'est pas long, 25. Mettons 28 parce que tu t'es fait une bouteille d'eau et t'as parti sa télé.
Puis je tiens à dire, avec celui-là, en plus, on donne un plan alimentaire aux gens que les gens peuvent télécharger qui a été designé par une nutritionniste. Là. C'est un plan d'une semaine. Puis c'est pas une affaire de régime. Là. On dit aux gens, si vous vouliez bien vous alimenter, puis on donne plein d'options. De ci, de ça, ça vient avec chaque achat du DVD aussi.
Et où on peut trouver le DVD?
Ah, écoute, il est partout. Il est chez Costco, Walmart, Archambault, Renaud-Bray et en ligne aussi là, sur mon site jimmysevigny.com.
Bon, watch out. Je le garde, celui-là. Je vais essayer de le faire. Puis je vais. Puis je tomberai pas enceinte pour faire du yoga, je vous avertis.
Non, mais tu peux faire le après.
Le après, écoute, le après. Je vais essayer, j'ai un enfant de 3 ans et demi, voir si je suis capable de le lever avec mes
jambes. Il va adorer le faire avec toi, pour vrai.
Écoute, pour vrai, mes enfants font du yoga. Il y en a un, mon Billy, fait du yoga à la pré-maternelle, fait qu'il tripe bien gros. Ouais. Donc, merci beaucoup, Joannie. Toi aussi, où on peut trouver le DVD?
Même chose, on peut le trouver un peu partout dans les magasins, les pharmacies, les librairies et en ligne aussi.
Et c'est. OK. Pouvez-vous me dire exactement où on peut suivre ce que vous faites sur le web?
Ouais. Absolument. Écoute, les deux, on a des fanpages. Il y a Joannie Tardif, professeur de yoga. Moi, c'est Jimmy Sévigné. Une super belle communauté de plus de 300 000 personnes. Puis sur Instagram, même chose. On a. Toi, c'est Joe, c'est sur Instagram?
Moi, c'est Jyoti Yogi Trainer.
Puis moi, c'est Jimmy Sévigné.
Parfait. Ouais. Écoute, je vais vous taguer sur Instagram. Je vais faire une story de ça quand je vais faire voir.
Je veux une preuve de ça. Je veux le voir.
Non, regarde, tu vas le voir.
tu vas nous trouver. On t'a identifié dans notre story dans Tempête
Parfait.
Ensemble.
Bon, mais là, écoute, même je me mets au défi d'ici une semaine. Là, je vais avoir essayé ça. Merci
c'est
beaucoup,
défi.
Jimmy. Merci, Joannie.
Bye-bye.
Mère ordinaire.
Les meilleurs moments de la dernière saison. Cube Radio.
Phil La Prise. Allô, Phil.
Hey, bonjour, comment ça va les filles?
Ça va bien. On est en plein dans le sujet aujourd'hui. Écoute, c'est pas un secret pour personne.
Je sais pas, là, avec qui t'es en ce moment?
Je suis avec Madame la directrice, qui est une ancienne directrice d'école et qui maintenant est conseillère. Donc, elle est prof, une ancienne ortho.
Je l'ai trouvée brillante. J'ai trouvé brillante. Ça vient de dire ce que vous venez de parler, là, c'est extraordinaire. Bravo, je vous félicite.
Merci beaucoup,
super.
Phil.
Mais il faut en parler.
Et Phil, toi, t'en parles. Moi, je veux dire, chaque matin que je vais porter mes enfants à l'école, je vois ta face. T'es sur la clôture de l'école de mes enfants avec 2 élèves parce que t'es le porte-parole officiel de l'école publique au Québec.
Oui. Oui, exactement. Je suis devenu porte-parole il y a 2 ans. Donc, Claire Mainparis a décidé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Puis, écoute, ça a été pour moi un honneur de faire ça parce que l'école publique ne m'a jamais abandonné. Malgré le fait que, à notre époque, là, on parle des années 80, que, évidemment, quelqu'un qui avait un genre de diagnostic de TDAH comme moi, non diagnostiqué, on se faisait mettre souvent dans un coin, puis on nous disait d'arrêter. Mais quand même, l'école ne m'a jamais abandonné. C'est un peu un retour. Je retourne l'ascenseur à l'école publique en ce moment parce que pour la valoriser puis la dire qu'elle est belle parce qu'elle est belle notre école publique.
Mais c'est vrai que l'école publique va jamais là. Ça arrive pas de lâcher un élève. Tandis que ben là, je veux pas être contre le privé, mais je sais que le privé, pour l'avoir vécu dans ma famille, en fait avec le fils de mon chum, l'école privée a lâché son fils. Donc à un moment donné, tu ne fites plus dans le moule. Va-t'en. Mm-hmm. Et c'est vraiment ça, on a vraiment dit va-t'en, on ne va pas t'aider, t'as des difficultés à l'école, t'as un trouble d'attention, va-t'en, t'es out d'ici. Ça n'arrive pas au public, on laisse pas tomber un jeune parce qu'il y a un trouble d'attention. Au contraire, on veut développer son plein potentiel. Mais, faut pas oublier que dans le diagnostic et dans le suivi des jeunes qui ont des défis, ça prend quand même des sous et c'est de là que vient ta fondation, Phil.
Exactement. Ben, c'est pour ça un peu que j'ai décidé de faire la fondation. Autant pour peut-être apporter du soutien financier à des gens, mais aussi être capable de donner les bonnes informations aux gens. Parce que ce que je remarque en étant en tournée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pognées avec ça. Puis je dis pognées parce que des fois, quand on est en situation de crise, qu'on vient de l'apprendre, puis que là, on sait pas ce qui se passe, les notes sont pas bonnes à l'école, puis que tout le monde est en train de paniquer, ils ont besoin d'avoir de l'information qui est juste, mais surtout scientifique et prouvée. C'est ça que j'essaie de faire avec la Fondation, amener ça et évidemment donner du soutien aussi aux familles.
Parce que, Guim, quand toi, j'ai vu que tu as créé cette Fondation-là, je me disais, Guim, il n'y en a pas d'autres. Qui fait des enfants à défi qui ont des troubles d'attention, qui prend cette cause-là puis la porte? Je vois peu de soutien. On en parle, mais on n'a pas de soutien, que ce soit pour aller chercher un diagnostic. On sait pas où aller. Et peu de gens le disent. Tu sais, toi, Philippe, tu le dis. Moi, j'ai été diagnostiquée sur le tard. Toi, tu as été diagnostiquée en même temps que ton fils. Moi, j'ai vu ton spectacle et oui. T'en parlais où tu as été diagnostiquée adulte.
Oui, exactement. J'ai été diagnostiqué adulte parce qu'en fait, c'est ma fille, moi. La plus vieille qui était DAH comme moi. Puis, écoute, elle a fini son secondaire 5 cette année. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait déjà 15 ans qu'on a été diagnostiqués tous les deux, tu sais. Fait que...
Et il y a 15 ans?
Que j'ai été diagnostiqué.
Il y a 15 ans, c'était plus tabou encore, là.
Ben oui, c'était tabou encore. Même moi, quand j'ai commencé à en parler, il y a à peu près de cela, mettons, j'ai reculé de 8 ans. Quand j'ai commencé à le dire, là, j'étais pas bien. J'étais mal à l'aise de le dire devant le monde en public. Puis pourtant, tu sais, là, je le dis souvent aux parents, dans le sac magique des troubles, là, au niveau cérébral, c'est un des plus tripants, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique, là, c'est dur de vivre avec ça, là. Mais quelqu'un qui a de l'énergie puis qui est rempli d'idées, c'est quand même hot d'avoir ça dans la vie, d'avoir quelqu'un de même autour de lui, tu sais. Tu sais, tu te dis, Caroline, arrêtons de voir toujours le négatif dans ça, puis focussons sur le positif, tu sais. Et allons dans le positif de voir à quel point ces jeunes-là, puis ces adultes-là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes allument qui ont ça aussi, tu sais.
Bien, on s'en rend compte, bien, parce qu'on commence à diagnostiquer des enfants, on voit, finalement, mon enfant est peut-être un peu comme moi. Hein? Des fois, on s'en rend compte comme ça. Finalement, le médecin parle, bien, crime, c'est-tu de moi que tu parles ou de mon enfant?
Moi, Bianca, oui. Là, ce que j'aime beaucoup dans ce que Philippe dit, c'est qu'il parle de sa fille qui est en secondaire 5 aujourd'hui, puis je sens dans sa voix, tu sais, qu'elle se rend au bout de quelque chose, elle réussit, elle fait son chemin. Oui. Puis toi aussi, Philippe, tu fais ton chemin, c'est de l'inspiration. C'est ça, je pense, qu'on a besoin, c'est que des difficultés, on est capable de mettre des mots, on est capable de donner des diagnostics, mais ça ne limite pas.
Mais on a cette impression-là, quand tu reçois un diagnostic pour ton enfant, c'est comme si toi-même tu le reçois et tu dis ça y est, c'est fini. C'est fini, va pas réussir.
Souvent, en fait, souvent le malaise, là, ça vous y est où? C'est que quand, mettons, moi, quand ma fille l'a reçu, là, c'est qu'elle vivait exactement ce que j'avais vécu au primaire. C'est comme si j'étais en train de revivre ce que moi j'ai vécu. Les échecs, se faire intimider, se faire rire d'elle. Fait que tu sais, au début, c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Pas que j'accepte le TDAH de ma fille, que j'accepte que moi j'en ai un, puis que je me pardonne à moi-même que, écoute, ce que j'ai fait quand j'avais 8 ans, là, puis je me faisais fesser sa gueule par les profs et les directeurs, c'était pas de ma faute, pour vrai.
C'est terrible.
Parce que j'avais quelque chose cérébral. Tu comprends-tu? C'est ça que... Moi, à un moment donné, c'est ça que j'ai fait. Je me suis pardonné ça, là. Puis à partir de là, il me semble, je me suis senti tellement mieux dans ma vie, là, que je me suis mis à avancer. Puis let's go, on part.
Mais et ça, c'est vraiment important, Phil, parce que quand tu le dis, toi, les jeunes, tu sais, les jeunes trippent sur toi. T'es vraiment un modèle pour les jeunes. Et de voir, OK, Phil, il en parle, puis c'est pas la fin du monde. Je vais passer à travers. Et ça va c'est pas vrai que ma vie est hypothéquée parce que j'ai un diagnostic. Tu deviens un modèle pour eux autres.
Non, mais... Exactement. Puis souvent, je rencontre beaucoup de jeunes après mes spectacles qui viennent me voir. Écoute, dernièrement, il y a un petit gars qui me dit moi, j'ai doublé une fois, puis j'ai dit mon body, t'as intérêt à te lever de bonheur, tu m'as pas battu, j'ai doublé trois fois. Moi,
c'est vrai?
Pourquoi tu me rappelleras? Oui, j'ai doublé trois fois. Moi, j'ai fini mon secondaire 5, j'avais 20 ans.
Mais mon frère aussi avait repris grave, des années. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a des choses qui évoluent, là. Oui.
Mais ça change rien,
ben
en
oui,
fait.
Puis c'est ça.
Ça change rien. Le finir à 20 ans ou à 21 ans, toujours est-il que tu l'as terminé. Puis aujourd'hui, ta vie n'est pas à plaindre.
Ben non, parce que, crime, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, c'est sûr, ça m'a peut-être pris plus de temps que les autres humoristes arrivés là, ce que je suis rendu. Mais j'ai fait ce que je voulais dans la vie, tu sais, parce que je me suis bien entouré. J'ai été capable de tu sais, un peu... Tu sais, je dis souvent que les artistes qui ont des TDAH, sont souvent très privilégiés parce qu'il y a quelqu'un qui gère mon agenda, il y a quelqu'un qui gère comment je m'habille, il y a quelqu'un qui gère mes communications. Moi, je reçois un texto qui dit « Tu vas avoir une entrevue là à 11h30, j'attends ton appel, puis c'est réglé. » Mais c'est une forme de médication, on dirait.
Mais c'est correct.
Mais en même temps, je prends de la métrique aussi, tu sais, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Là.
Mais c'est correct parce que il faut prendre des moyens. Quand on est adulte puis on voit qu'on a ce diagnostic-là, on prend des moyens pour organiser sa vie. C'est la même chose que mon chum, il est pas là. On prend des moyens pour s'organiser, puis c'est pas vrai que la vie est hypothéquée. Phil, le temps a filé. Et je veux dire absolument, oui. Comment on veut, si on veut aller voir la fondation de Philippe Laprise, où on va?
Ben écoute, on peut aller sur la fondation philippelaprise.com, évidemment. Comme je dis souvent, on l'a sorti la semaine passée, fait que ça, on commence à faire des choses. On a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Genre, cette semaine, il y a des affaires qui vont sortir, des partenaires et tout ça. Fait que je dois demander à tous ces beaux TDAH-là au Québec d'être encore un petit peu patient.
C'est
de
tough, me
donner 3-4 mois.
Ouais, la patience, c'est pas dans quelque
temps.
Et Philippe, le 9 décembre prochain, c'est ta soirée avec Pierre Hébert.
Oui.
Vous animez le gala Les Oliviers.
Oui, exactement. On est bien stressés. On n'est pas stressés. On est très gamins, moi, puis Pierre. Tu nous connais. Fait que on a très hâte de se rendre là avec notre beau dynamique, un peu TDAH, toutes les deux.
Mais ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte au 9 décembre parce que les deux, vous êtes fous, les deux, et vous avez une énergie que peu ont. À deux, je sais pas, d'après moi, je sais pas combien d'heures ils vont durer ça, ce gala-là, mais d'après moi, ils vont le doubler cette année. Et t'es en tournée aussi. Philippe, t'es aussi en tournée, là. C'est pas tout parce que un TDAH, hein, il peut en rentrer des affaires dans son horaire. Je sais pas, t'as-tu un chiffre de nuit, toi? C'était
non, j'ai pas de chiffre de nuit. J'essaie de dormir une demi-heure dans la nuit pour être en forme pour le lendemain.
T'es de Grégory Charles de l'humour, c'est ça?
Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
Jusqu'à 12.
Mère ordinaire.
En reprise. Cube Radio.
Anaïs Gertin-Lacroix, en remplacement de Bianca Lombré. Comment ça s'est passé ce matin, vous rendre au boulot, à l'école, amener les enfants à la garderie, l'enfer?
Hey, moi, j'ai négocié avec mon chum. C'est lui qui est allé porter l'enfant à la garderie, puis moi, je suis allée déjeuner avec ma chum Karen.
Mon Dieu, qu'est-ce que tu y as fait?
On va garder ça secret. Ce n'est pas le sujet. Non, j'ai rien fait, c'est sa job.
Ah, ben
il est papa.
Ouais, c'est ça qui se
passe. Lui aussi contribue, j'ai rien fait.
Mais c'était l'enfer. Honnêtement, là, c'est le genre de matin. Moi, je vous avoue qu'à la fin du mois, je m'en vais en République dominicaine avec mon chum, l'enfant. Puis là, ce matin, je me disais, il me semble que je partirais, tu sais, je me ferais pas prier pour aller prendre l'avion. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait en République ou n'importe où? On passe du temps avec la famille.
Ben moi, je mets mon bas de bikini sur la tête, là, mais c'est toi, là.
Ouais.
Je cours tout nu dans les buffets. C'est ça que je fais.
C'est ça
que je fais.
OK, mais c'est ça. Non, mais on mange, on boit, on fait l'amour parce que moi, j'ai eu une gastro pendant les deux semaines du temps des fêtes, donc on va se reprendre. Alors, tout ça à la fin du mois, ça, mais là, ouais, on parfait. Est au Québec, il fait frette, puis on en profite.
Ben oui, puis t'as du lestarop.
Ben c'est ça, hein. Écoutez, ben c'est ça. Une mère ordinaire, c'est ça.
Ouais, exactement. Une mère ordinaire, c'est nous, c'est Karen, c'est toi.
Hey, moi, le sujet aujourd'hui, on en parlait juste avant d'entrer en onde, ça me fait capoter. J'avais 10 millions de questions pour toi, Karen, 10 millions de questions aussi pour toi, Mélanie. Donc, aujourd'hui, on va parler tout d'abord des familles reconstituées, familles recomposées. Déjà là, il y a plusieurs termes, juste pour annoncer le sujet. C'est comme mélangeant.
Exactement. Ben, justement, le vocabulaire, je l'aime pas. Reconstituer puis recomposer, on dirait que ça part du fait que t'as scrappé de quoi, puis que ça te rappelle tout le temps que t'as scrappé de quoi à la base, puis que là, t'as refait quelque chose. T'sais, pour moi, ça, c'est... Je me dis, oh mon Dieu, famille 2.0,
c'est
nucléaire spécial. Je sais pas. Trouver d'autres termes, mais comme je trouve ça lourd. Mais ça explique bien la chose, mais je trouve ça lourd. Et y a-tu juste moi qui trouve que belle-mère, beau-père, c'est mélangeant quand les enfants deviennent à l'âge d'avoir des blondes?
Mais c'est parce qu'il y a comme deux belles-mères, il y a comme deux beaux-pères versus la belle-sœur, la demi-sœur.
C'est
ça. Là, c'est clair.
Comme moi, en ce moment, je suis officiellement la belle-mère d'un pubère de 16 ans. Je l'ai rencontré quand il était prépubère à 11 ans. Il a mué et tout à ma présence. C'était merveilleux. Mais là, il est pubère full pin. Et ce pubère-là, à un moment donné, va avoir quelqu'un dans sa vie. Et cette personne-là risque d'avoir une mère en vie, là. On lui souhaite. Mm-hmm. Fait que ça va être aussi sa belle-mère. Fait que c'est ça qui est mélangeant.
Oui, on dit toujours la belle-mère du côté de mon chum.
Ben
la belle-mère.
C'est ça. Moi, ma belle-mère à moi, c'est la mère de mon chum.
Oui.
Bon, moi, j'ai pas ça des demi-mères. T'sais, mes parents sont encore ensemble. Fait que, t'sais, je trouve ça bien mélangeant. Puis chez nous, on a mis les choses au clair parce que j'ai aussi un garçon de 2 ans avec mon chum. Et ce sont des frères, pas des demi-frères.
Ben c'est correct, ça. Ouais, moi, j'ai une demi-sœur. Ils ont dit, même si on n'a pas de sang, je dis, c'est ma sœur. Rendu oui, là aussi, mon chum, il y a un demi-frère, entre guillemets, mais les parents, ça fait comme 25 ans qu'ils sont ensemble. Là. Ils ont grandi ensemble. Ma mère, c'est un frère. Là.
C'est ça. Quand t'as pris ton bain. Non, c'est
pas vrai. Quand tu cours tout nu dans le buffet.
Quand tu cours tout nu dans le buffet avec toute la famille, on est une famille. OK? Mais bon. Fait que ça, déjà là, tu sais, effectivement, les termes, je trouve ça. Mais j'ai raison statistique parce que le sujet est intéressant parce qu'on est plusieurs. On est rendu à peu près 133 000 familles au Québec à être des familles qui sont considérées recomposées.
OK.
Il y a plusieurs sortes de recomposées. Il y a des familles recomposées simples, c'est-à-dire moi au début, et encore moi en fait, je me suis greffée à une famille. Moi, j'avais pas d'enfant, puis je me suis greffée à un monsieur qui en avait.
Okay, ça, donc c'est pour recomposé être simple, simple. Justement, quand c'est simple, c'est que tu te greffes à un homme ou une femme qui a un enfant.
C'est ça. Complexe, ça l'explique bien, c'est quand deux personnes ont des enfants, puis qu'ils se matchent ensemble. Puis là, il faut
Karen,
qu'ils
toi,
tout ça.
C'est ça.
Karen,
exactement ce modèle-là.
Puis toi, c'est, ton modèle, c'est. Toi, t'as.
Moi, deux enfants, oui. Mon chum en a trois.
Je suis essoufflée, là. Je veux dire, aussitôt que tu as dit deux, je me suis dit, OK, t'en as ajouté trois, je vais prendre une pause. Mais honnêtement, vous êtes cinq. C'est quoi la gamme d'âge des enfants?
On en a un qui va avoir 21 ans, puis le bébé va avoir 9 ans demain.
Comment gère ça? Entre 9 et 21, on s'entend qu'il y a comme une très grande différence d'âge et les deux sont à des niveaux très différents, autant au sphère culturelle qu'au niveau psychologique. Je veux dire, comment tu vis ça?
Bien, au début, c'était assez simple parce que l'adolescent, à cette époque-là, avait 13 ans, celui qui va avoir 21 ans. Les quatre autres se suivaient de 2 ans. Donc, l'adolescent restait à gamer plus à cette époque-là. Puis les quatre autres, on faisait des
activités. C'était un camp de jour pour les quatre autres.
Oui, c'est ça. Ouais. C'était un camp de jour.
Mais tu peux pas aller à la ronde?
Oui.
Mais les manèges, tu sais, souvent, ouais, ça rentre, mais...
Oui, on s'organisait. On faisait des activités. On a campé.
T'avais comme une méga mini fourgonnette, maintenant?
Ouais.
Oh,
on n'a pas eu le choix.
Dieu.
Ouais, c'est ça. Elle a vendu sa Presidia. Non. Ah, je m'excuse du vieux référent pour les gens. Ça existe même plus ce genre-là, mais c'était mon premier char.
Je t'ai dit la ronde, je veux dire n'importe quelle activité. C'est juste aller au cinéma, là. Deux adultes, deux enfants, c'est cher. Hey, cinq enfants, là, tu sors plus du mois, là.
Ben, on n'allait pas au resto toutes les semaines. Ah.
Hey, je comprends donc. Puis tu collectes tes canettes de coke avec ton rabais de 3$.
Mais les gardes des coupons. C'était les chambres d'hôtel. C'est ça le plus complexe.
C'est vrai?
Oui. Mais là, maintenant, c'est réglé. On en a trois qui ne suivent plus.
Bon, mais je comprends.
Bon,
mais chambre, j'avoue que moi, comment tu gérais ça, chambre, tout le monde dormait ensemble, mettons deux lits king, comment tu faisais ça?
On magasinait plus, souvent il y a des chambres avec deux grands lits, un divan-lit.
Ah, c'est okay. Vrai.
C'était plus
ou la chambre, mais moi c'est ça, si tu veux juste la une chambre,
le bain.
Tu mets le matelas dans le bain.
On fait ça à Noël.
Manteau dans le bain, bébé dans le bain. Les bottes, les bébés, les manteaux, tout. Ben c'est ça, là, on en parle, puis ça a l'air essoufflant juste à en parler, mais il y a des raisons pourquoi tu veux essayer ça. Il y a quand même des avantages à être une famille recomposée.
Ben j'imagine, en partant, si t'es heureux et que tu quittes, juste ça, c'est positif, à mon sens, à moi.
Exactement. Si tu es une famille qui, à la base, donnait un modèle négatif à tes enfants, aussi bien scraper ce modèle-là pour essayer de te trouver un modèle qui est beaucoup plus positif pour tes enfants. Ça, je pense qu'on peut mettre ça dans un tiroir puis le barrer, c'est non négociable. Mais voilà quelques avantages. Ça améliore la capacité d'adaptation des enfants.
Parce que les enfants, si tu me dis ça, c'est effectivement.
Mais oui, les enfants, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils embarquent. Des fois, ils ont soudainement deux personnes dans la chambre avec eux autres, tu sais, ou le temps de déménager, parce que souvent tu vas déraciner quelqu'un. Hein? Il y a une des deux familles qui risque de déménager. Donc c'est ça. Ça développe l'ouverture envers les autres humains. Parce que quand t'es dans ton petit noyau au quotidien, puis que tu sais, t'arrives dans la sphère publique, mettons à l'école, l'enfant va comprendre que avec les amis à l'école, il faut qu'il soit gentil. Mais quand t'as soudainement du monde pas inconnu, mais tu sais, des gens que t'as à apprendre à connaître qui sont 24 heures sur 24 dans ta maison à toi. Ça aussi, il faut que tu aies une meilleure ouverture d'esprit parce que il faut que tu tolères les différences de chacun. Tu sais. Fait que déjà là, je pense que ton enfant, il y a des beaux apprentissages.
Mais je pense qu'il y a comme des grandes leçons de la vie que l'enfant va peut-être acquérir et apprendre plus rapidement qu'un autre enfant qui vit avec solo. Sans rien enlever. Parce que je veux dire, moi, mes parents n'étaient pas séparés. Tu sais, puis je pense que j'étais ouvert d'esprit, mais c'est sûr que quelqu'un, que les enfants, que les parents se séparent et que tu dois déménager, changer d'école et tout ça, c'est sûr que.
Moi, je pense que ça vaut deux, trois voyages en Afrique. Être ouvert sur le monde, là, ça vaut pas mal ça. Ça démontre aussi à ses enfants qu'il y a un modèle différent de famille qui peut exister. Il ne faut pas oublier que s'aimer, c'est possible, même si tu n'as pas aimé avec l'autre parent ou que tu n'aimes plus avec l'autre parent, c'est important de démontrer à ton enfant que tu peux aimer avec un autre adulte, mm-hmm. parce que cet adulte-là est un futur aimeur.
Et qu'il y a différentes sortes d'amour aussi. C'est pas parce que t'es plus amoureuse du père, exemple, de ton enfant que
non.
Tu l'aimes plus pantoute. C'est cool aussi, les enfants vont apprendre à justement qu'il y a différents types d'amour dans le monde.
Exactement. Il y a différents types d'amour, puis qu'il y a des relations, ça se redéfinit, puis que tu peux devenir un bon coparent, puis quand même aimer l'autre personne, puis tu sais, mais d'avoir un amoureux, puis qui est lui aussi parent de d'autres enfants. Fait que toutes les dynamiques justement d'amour puis de relations, ben ils sont dans leur face. Fait que je pense que ça développe des êtres humains qui sont un peu plus ouverts.
Mais là, je veux savoir, est-ce que ça fait longtemps? Moi, j'ai l'impression, il me semble même, les baby boomers se séparaient à peine. Est-ce que ça fait longtemps que les gens vraiment se séparent et
se recomposent?
Ben, ça date de quand?
Et surprenamment, ça date de plus longtemps qu'on pense. Ça date du 17e siècle.
Quand même.
Parce que, pas parce que les gens se séparaient, mais parce que les gens mouraient de la peste. Genre. Bon, je dis la peste, là, mais ça peut être la gangrène ou la syphilis grimpante. Je ne sais pas exactement de quoi ils mouraient. Dans le temps, elle avait le temps de grimper avant qu'on la catch. Mais les gens mouraient plus tôt dans ce temps-là, fait que, ou mouraient d'accidents tragiques ou même en accouchant. Tu sais, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en accouchant dans ce temps-là. Fait que si monsieur se retrouvait avec deux enfants puis qu'il avait jamais fait cuire un œuf, il paniquait un peu. Fait que souvent, il disait, je vais retrouver une deuxième mère à mes enfants.
Cendrillon.
Eh ben c'est ça. Hein? On espère juste que la mère elle soit pas en train de l'embarrer dans le grenier.
C'est un petit détail important, je dirais. Puis avant qu'on aille à la pause, juste marrante. On a parlé de ça de l'autre côté avant de venir en studio. Parce que marrante, c'est vraiment négatif là ici au Québec, entre autres à cause de Aurore.
À cause de Aurore, l'enfant martyr, la marrante, c'est quelqu'un que t'appelles la DPJ. Mais le vrai terme pour dire la belle-mère, ce que j'ai dit tantôt qu'on est mélangé, ça serait marrante. Fait que j'aime mieux me faire appeler belle-mère et mélanger que me faire appeler marâtre.
Hein? Pour le père, c'est quoi?
Parâtre. Mais ça, c'est... Ouais, c'est ça.
Non. Parâtre, marâtre.
Ça parâtre pas bien. Oh, je m'excuse, on part presque là-dessus.
Hey, mais... c'est fort. Non. On y va. OK, c'est parfait. Alors, répète-moi ta joke, c'était quoi t'as dit?
J'ai dit parâtre, je suis désolée, mais ça parâtre.
MélanieCouture.com pour avoir des détails. De spectacle. Facebook. De l'autre côté de la page, je veux qu'on parle un peu justement de comment ça se passe dans la réalité, dans le quotidien. Et je veux juste dire qu'il est 11h11, donc c'est le temps de faire un vœu.
Cube Radio.